Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de 11h à midi pour une émission spéciale. Le temps est frais, le ciel grisonnant, mais l'humeur est tout de même au rendez-vous ce matin à la coopérative viticole Eudoria. Alors, amateurs de vin ou bien simples curieux, restez donc avec nous pour découvrir ce lieu. Nous allons rencontrer différents acteurs au sein de cette coopérative et essayer de comprendre un peu plus le fonctionnement et les coulisses du monde viticole grâce aux interviews avec nos hôtes, la visite sonore du lieu et qui sait, pourquoi pas une petite dégustation pour les plus gourmands. Pour les auditeurs assidus, vous remarquerez que je ne suis pas votre animatrice habituelle. En effet, et quelle veine pour vous! Cette semaine, Cala donne une formation qui nous est proposée par Aura FM. Nous sommes donc trois stagiaires, Maria, qui nous vient de Déclic Radio, Valentin, qui arrive de RVM Radio Valois Mulcien, et moi-même, qui vient de Radio Diwa, ou RDIWA. Maintenant que les présentations sont faites, revenons-en à nos vins rouges et blancs. Mais alors, qu'est-ce qu'une coopérative viticole? J'avoue pour ma part que même si j'y ai travaillé, ou plutôt travaillé dans les champs, en tant que vendangeuse ou épompreuse parfois, c'est un terme que je ne connais pas trop et qui parfois même peut m'intimider un peu. Heureusement pour nous, je suis actuellement avec Christian Clayette, président de la coopérative Eudoria, qui saura, j'en suis sûre, nous éclairer sur ce sujet. Christian, bonjour.
Bonjour.
Alors Christian, déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre place à vous au sein de la coopérative?
Je suis président de la CAV coopérative Eudoria, donc je suis président du conseil d'administration. Donc c'est le conseil d'administration qui élit le président et les membres du bureau. Voilà, donc... Une CAV coopérative, c'est un regroupement de coopérateurs pour mettre en commun des moyens et des salariés pour vinifier, commercialiser le vin.
D'accord. Et vous, vous travaillez donc sur le vignoble du Beaujolais?
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les spécificités du Beaujolais, du vignoble du Beaujolais?
Donc le Beaujolais, c'est un cépage gamay, c'est un monocépage en fait. Donc il y a des crus du Beaujolais et le Beaujolais village et le Beaujolais traditionnel. Donc nous, Eudoria, on fait principalement du Beaujolais et Beaujolais primeur.
Du vin rouge ou blanc?
Vin rouge pour le Gamay et vin blanc, c'est du Chardonnay. C'est pareil, monocépage en vin blanc. Et avec le vin rouge, on peut faire du rosé également.
Quand vous dites cépage, qu'est-ce qu'un cépage?
Donc un cépage, c'est un type de cèpe, enfin c'est des classifications, donc vous avez plusieurs cépages, vous avez du cabernet, du sauvignon, donc ça donne des goûts différents au vin.
Et le Beaujolais s'étend sur combien de kilomètres et combien d'acteurs travaillent donc, au sein de...
Il y a environ 14 000 hectares, donc en répartition il doit y avoir 6-7 000 hectares de crus, 3 000 de village et 4 000 de Beaujolais, enfin, grosso modo.
Et au sein de la coopérative Eudoria, vous avez combien de viticulteurs qui travaillent avec vous?
Donc Eudoria regroupe 250 viticulteurs sur 900 hectares environ. Et on fait du Beaujolais rouge, un Beaujolais rosé, du blanc. Et on a une spécificité, on est élaborateur de crémant de Bourgogne.
Le crémant de Bourgogne.
Oui, le crémant de Bourgogne se vinifie à partir de cépages Chardonnay ou Pinot. Donc on est spécialisé puisque historiquement la cave de Liergue a initié ce type de vinification. Parce que Odoria est un groupement de 4 caves coopératives. Donc l'IAG Thésée ont fusionné en 2008. Nous a rejoint ensuite l'ETRA en 2011 et récemment Glaizé en 2018.
D'accord. À la base, vous étiez 3 caves, c'est ça ?
À la base, il y avait 4 caves séparées en fait. Et on a fusionné l'IAG Thésée pour faire une entité un peu plus grosse et avoir un poids sur le secteur Beaujolais.
Et pourquoi les viticulteurs se regroupent en coopérative ? Quels sont les inconvénients, les avantages ?
En fait, la cave coopérative la plus ancienne, c'est l'IAG, en 1929. En fait, c'est un regroupement de viticulteurs pour mettre en commun les moyens, pour pouvoir vinifier et commercialiser le vin. Donc, c'est une simplicité, en fait, puisque à plusieurs, on est plus fort. Et voilà.
Et est-ce qu'il y a des vins dans le Beaujolais qu'on va retrouver plus au nord, plus au sud ?
En fait, le Beaujolais Nord regroupe tout ce qui est cru du Beaujolais, donc vous avez 10 crus. Et dans un petit peu plus bas, quand vous descendez, vous avez le Beaujolais Village. Et encore plus bas, plus au sud, vous avez le Beaujolais traditionnel.
Ouais. D'accord. Vous êtes viticulteur vous-même ?
Moi, je suis viticulteur, oui, sur une quinzaine d'hectares de vignes. Donc, je produis du Beaujolais rouge, principalement du crémant de Bourgogne. Donc, Pinot et Chardonnay.
Ouais. Très bien. Et au sein de la coopérative, comment sont prises les décisions entre les viticulteurs ?
Donc, en fait, il y a une assemblée générale tous les ans pour élire ou renouveler le conseil d'administration. Le conseil d'administration est élu pour 3 ans et c'est renouvelable par tiers. Et ensuite, on élit le président et les membres du bureau. Donc, le président et les membres du bureau donnent des directives ou une vision où va la cave coopérative. Et c'est validé par le conseil d'administration. Et le conseil d'administration élu de l'Assemblée générale de tous les viticulteurs. Donc, voilà, ce qu'on appelle des adhérents.
Et vous dites les adhérents, donc 250 viticulteurs. Oui. Est-ce que ce sont eux qui viennent vers vous pour entrer dans la coopérative ou est-ce que c'est vous qui allez proposer ?
Non, c'est plutôt les viticulteurs qui veulent rentrer dans la cave coopérative. Donc, un homme, une voix pour les coopératives. Donc, le viticulteur qui a un hectare a autant de poids que celui qui en a 20. Donc, voilà. C'est une typicité des coopératives.
Vous avez toujours travaillé en coopérative, vous, particulièrement ?
Personnellement, je suis rentré en coopérative en 2006, puisque avant, j'ai un autre parcours, je n'étais pas viticulteur. Donc, je suis arrivé en 2006 et voilà, j'étais intéressé par le modèle coopératif. Et je trouve que s'impliquer dans la coopérative est une bonne chose. Et comme ça, on est maître un petit peu de son destin. Et voilà, on essaye de faire évoluer les choses en prenant en compte tout l'environnement et les choses comme ça.
Et au sein d'une coopérative, donc il y a les viticulteurs. Quel autre corps de métier on peut voir émerger dans une coopérative viticultrice ?
Donc en fait, les viticulteurs... Le conseil d'administration, issu de l'Assemblée générale, on embauche des salariés pour vinifier, commercialiser et l'administratif également. Donc il y a tout type de métiers, ça va du maître de chai au technicien viticole pour nous donner des conseils, aux salariés qui mettent en bouteille, qui vinifie le vin durant les vendanges. Il y a des saisonniers pendant les vendanges. Il y a beaucoup d'administratifs aussi, des comptables, du secrétariat. Tout ça réuni, de la communication. Et donc, on fait un savant mélange. Et on essaye d'être l'esprit coopératif.
Et donc, au sein de votre coopérative, hors des viticulteurs, il y a combien à peu près de salariés ?
Vous avez une idée ? On est 23 salariés. 23 salariés, hors saisonniers. Saisonniers, puisqu'il y a trois sites en fonctionnement pendant les vendanges. Donc, on peut embaucher une cinquantaine de personnes, en plus des salariés permanents.
D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve juste après avec Pierre Cinquin.
Calade. Ma radio.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba, y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera.
No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
Et nous sommes toujours sur Radio Calade, votre radio 100.9, en direct de Odaria. C'était Rosalia la femme. Et nous sommes maintenant avec Pierre Cinquin, maître de chez. Et comment transforme-t-on tout ce beau raisin en vin ? Quelle science mystérieuse est à l'œuvre derrière cette merveille ? Je suis donc avec Pierre Cinquin, qui, lui, veille dans l'ombre pour... Excusez-moi, qui veille dans l'ombre au bon déroulement de ce processus. Bonjour Pierre Cinquin.
Bonjour.
Alors déjà, vous êtes maître de chez. Qu'est-ce que c'est être maître de chez ?
Donc, être maître de chez, c'est s'occuper du site de production, donc de la cave coopérative, dans son ensemble, dans sa globalité. On va dire, ça commence au moment des contrôles maturité en lien avec les vignerons, toutes les élaborations des vins, les mises en bouteille, jusqu'au conditionnement, aux étiquetages et au départ des commandes.
Donc, vous recevez tout le raisin qui arrive ?
Oui, tout à fait.
Et ensuite ? Où il va ce raisin ?
Donc ce raisin, on a différents schémas de vinification, différents processus en lien avec les appellations, en lien avec nos choix de production, le type de vin qu'on souhaite réaliser. Et donc voilà, on a différents critères techniques aussi selon les sites de production. Donc comme Christian vous l'a dit, on a 3 sites de production qui sont les sites de Létra, Liergue et Thésée, donc avec différentes contraintes sur ces 3 sites.
Et le rythme au fur et à mesure de l'année, comment ça se passe pour vous globalement dans l'année
Donc on a une période très intense qui commence au moment des vendanges. Donc on a toute la préparation fin août et donc les vendanges démarrent généralement fin août, début septembre, suivant les années. Et donc on a un rythme très très intense durant environ 5 semaines. Voilà, et ça nous porte ensuite, on va dire, jusqu'à la sortie du Beaujolais Nouveau qui est le 3e jeudi de novembre.
Vous dites qu'il y a une grosse part de préparation. Qu'est-ce que c'est cette préparation ?
On a toute l'organisation du chai à faire durant l'été, les désinfections, les maintenances pour que tout soit prêt au moment des vendanges. Et également donc toute la partie recrutement du personnel saisonnier et l'organisation des plannings.
C'est vous qui vous occupez du recrutement des saisonniers ?
Oui, chaque maître de chai recrute son équipe, oui.
Pour tous les 250 viticulteurs ?
Non, seulement la partie qui travaille à la cave. Voilà. Ensuite, la partie vendange, ce sont les vignerons qui recrutent leurs vendangeurs.
Et donc, une fois que le raisin arrive, quel va être le rythme ? Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Comment se passe une journée en pleine vendange ?
La journée, elle se répartit, on va dire, sur tous les différents points de la cave, donc de la réception, ensuite le pressurage. On a des personnes qui travaillent sur les pressoirs. On a différents relogements de jus, de vin, et ensuite on a le suivi des fermentations. Voilà, il y a toutes ces étapes à gérer, les caves sont très grandes, on a de nombreuses cuves à gérer durant la journée. On navigue entre les différents saisonniers pour leur donner des consignes. Également beaucoup de travail de traçabilité à faire en lien avec tout ça.
Et quel est le vin qui met le plus longtemps, qui fermente le plus longtemps dans les caves ?
On va dire que ça dépend des années, ça dépend des processus de vinification, mais on va dire qu'il y a certaines cuvées haut de gamme qui sont ensuite entonnées, donc en fût, qu'on met en fût, et celles-là généralement fermentent et l'élevage ont un élevage un peu plus long que les autres.
Combien de temps par exemple ?
On va dire que certaines cuvées peuvent rester jusqu'à 1 an en fût de chêne avant d'être mis en bouteille.
Et vous, c'est vous qui vous occupez donc de savoir quand arrêter la macération ?
Oui, tout à fait. Donc la partie macération, principalement pour les rouges, celle-ci, elle va, on va dire, entre 3 et 10 jours. Mais oui, au quotidien, on déguste toutes nos cuvées. On choisit le temps de macération, on choisit le type de levure qu'on met dans ces cuvées, on choisit les différents assemblages au jour le jour. C'est un travail quotidien, même d'heure en heure, pour faire tous ces choix techniques.
Merci. Et parfois, j'ai tendance à confondre un peu œnologue et maître de chai. Quelle est la différence ?
C'est assez proche. Hein. Voilà, l'œnologue, c'est la formation. Voilà, on a une formation d'œnologue. Et ensuite, le maître de chai, c'est plus typique aux caves coopératives, je pense. C'est gérer le fonctionnement global de la coopérative. Donc, on parle du vin, mais on parle aussi de l'ensemble des infrastructures.
Et œnologue, c'est quoi ? C'est goûteur de vin ?
Oui, c'est un terme assez générique. Mais oui, la partie œnologue, c'est plus la partie qui va être spécifique au vin, donc la dégustation et les choix techniques en lien avec le vin.
Comment on sait, par exemple, que le Beaujolais nouveau, c'est bon, il est prêt à être mis en bouteille ?
Eh bien, on ne choisit pas. On a un rythme qui est imposé par des dates, avec une sortie qui est au 3e jeudi de novembre. Donc, on a un timing à respecter pour que le vin soit fermenté, filtré, mis en bouteille, conditionné pour une date précise. Tout est rythmé tous les ans par rapport à ces dates. Voilà.
Donc, je vois que vous avez quelques vins en particulier, le Beaujolais Nouveau, la cuvée Prodige, le Crémant de Bourgogne. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu la différence entre tous ces vins ? Le Crémant de Bourgogne, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce vin ?
Donc le Crémant de Bourgogne, on élabore tout d'abord un vin blanc, voilà, un vin blanc tranquille à 11 degrés, et qu'on fait refermenter en bouteille. C'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle, c'est la même méthode qu'en champagne. Donc on met en bouteille du vin blanc, des levures et du sucre, et il y a une seconde fermentation qui est faite dans la bouteille, voilà, qui dure minimum 12 mois. Ensuite, on a une partie qui est le dégorgement. Donc, on enlève le dépôt qui est dans les bouteilles, on rajoute de la liqueur d'expédition et à ce moment-là qu'on met le bouchon et le muselet sur la bouteille de Crémant.
Et des bulles vont apparaître dans la bouteille.
Voilà, la deuxième fermentation crée la pression dans la bouteille.
D'accord.
Tout à fait.
Et la cuvée prodige ?
La cuvée Prestige, pardon.
Prestige.
La cuvée Prestige, c'est une de nos cuvées haut de gamme sur nos Beaujolais rouges. Donc c'est une cuvée, une sélection de vins rouges avec des qualités supérieures qu'on passe en fût durant 6 mois. Voilà, donc c'est vraiment notre fleuron et notre cuvée supérieure. Voilà.
Et c'est une spécialité de la cave coopérative Eudoria.
On va dire qu'on est capable de, on est capable d'année en année de produire ces vins-là de qualité, de par le travail de vignerons, de par le travail de nos vinifications et de nos assemblages, oui.
Est-ce que vous pensez pour vous, le métier de maître de chai, c'est un métier de passion ?
Oui, c'est un métier de passion et c'est un métier où les tâches sont vraiment différentes d'un jour à l'autre, quoi. On a une partie terrain, on a une partie administrative. Comme je vous ai dit, on s'occupe des infrastructures, on fait du management, on déguste quasiment tous les jours. Donc c'est un métier assez vaste et très intéressant pour moi, oui.
Vous avez toujours pensé potentiellement aller là-dedans ?
Je suis fils de viticulteur coopérateur, donc à la base, ma situation aurait pu être de reprendre des vignes. Et rapidement, je me suis intéressé plus à l'œnologie qu'à la viticulture. Et donc c'est pour ça que depuis 15 ans, je travaille à Eudoria, et donc dans le vin et l'œnologie.
Ok, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour une visite du lieu où nous sommes. Et on me dit dans l'oreillette que The Alan Person Project souhaite nous parler de sa rencontre avec les grands crus du votre vignoble dans son titre Beaujolais.
Beside my bed, don't try to wake me. No phone.
Escalade.
Ma radio.
Et on se retrouve maintenant pour une petite balade sonore dans le lieu de, du lieu de vente. Et ce sera Benoît qui va reprendre le relais pour la balade.
Merci Tiphaine. Oui, on est toujours en direct de Eudoria. Cave qui se situe à Liergues, sur la, la grande route, vous ne pouvez pas louper, hein, c'est une grande cave coopérative. Et ben, on est toujours avec Pierre Cinquin, maître de chais. Et cette fois-ci, ben, on va se balader un peu dans le magasin, à la découverte des différentes cuvées que vous proposez.
Oui, tout à fait. Donc, on va déguster en premier la cuvée Prestige, dont je vous ai parlé avant, donc une cuvée de Beaujolais Rouge. Issu de nos meilleures parcelles, ensuite assemblées avant un passage en fût de 6 mois.
Alors, vous savez, on est tous souvent, en plus quand on habite dans une région viticole, on fait tous semblant de s'y connaître en vin. Et puis quand on se retrouve avec un maître de chais qui a un passé familial, on sait pas, on n'ose même pas tourner le verre, parce que c'est presque un peu des gestes magiques, la dégustation Pierre Cinquin. Est-ce que déjà, alors je sais que ça va pas être visuel, mais on va essayer de rendre ça radiophonique. Comment, quand on prend son verre en main, on aborde un vin, comment on fait connaissance avec le vin?
Donc d'abord, on tient le verre par le pied, tout simplement pour pas réchauffer trop le vin. Et on fait un premier nez pour sentir les premiers arômes qui s'en dégagent. Et ensuite, on fait tourner le vin pour qu'il y ait d'autres arômes qui se dégagent et qu'on ressente d'autres choses, d'autres arômes, on va dire un peu plus secondaires, quoi.
Eh bien, allons-y. Alors, on commence juste un premier nez. Alors, c'est voilà. D'accord, on fait tourner un peu, voilà, après le vin. Ah si, j'arrive à faire le geste comme ça, on dirait que je suis un habitué. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, vous, avec votre expérience, avec le nez que vous avez, ce qui vient quand on sent ce Beaujolais Rouge?
Donc, quelques mots sur cette cuvée. Moi, au nez, je ressens des notes épicées, des notes poivrées et également des notes de fruits noirs, des fruits noirs cuits, la mûre, un peu très mûre. Voilà.
Un peu comme les notes de confiture de fin du mois d'août.
Tout à fait, oui. Ah, oui. On ferme les yeux et on s'y croit.
Et ensuite, alors, la suite de la dégustation, forcément, là, ça passe cette fois-ci vraiment par une dégustation.
Tout à fait. Donc, on met le vin en bouche. Et l'idée, c'est d'aspirer un peu d'air pour la rétro-olfaction. Donc, on a les arômes du vin qui remontent par la rétro-olfaction. Et donc, quelques mots sur cette cuvée. Des tanins très présents, mais très soyeux. Voilà. On retrouve les côtés cassis très mûrs, le côté mûr aussi. Une très grande longueur en bouche. Une grande persistance aromatique.
C'est ça qui est bien quand on a quelqu'un qui sait mettre des mots, parce qu'effectivement, alors moi j'ai goûté, et au moment où vous avez dit cassis et mûr, je les ai sentis passer, comme ça effectivement on les sent, et mais je ne suis pas certain que j'aurais réussi à reconnecter ces goûts avec le cassis et mûr, mais effectivement, quand on déguste, alors toujours on déguste avec modération d'abord, hein, on est obligé de le rappeler, et puis une vraie dégustation, on n'est pas obligé non plus de boire tout ce qu'on déguste, puisque dans une cave on propose... De pouvoir recracher, hein. C'est quelque chose qui se fait et qui est pas, on vous manque pas de respect quand on fait ça dans une dégustation.
Au contraire, et on a même tendance à prolonger le plaisir quand on recrache, quoi.
Ah d'accord, c'est aussi quelque chose qui permet de... Donc là, c'était la cuvée Prestige de Beaujolais Rouge. On achète une bouteille, par exemple, et je veux la servir. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors peut-être déjà en accord avec un plat, mais comment vous me conseillez de faire avec cette bouteille pour que je puisse présenter tous les avantages de ce vin?
Alors c'est une cuvée qui est très riche aromatiquement et qui est très puissante. Donc moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas sommelier, je suis maître de chais. Mais je verrais plutôt ça avec une viande rouge et un plat d'hiver, on va dire.
Et pour lui permettre de développer tout son potentiel, est-ce que je l'ouvre à l'avance? Est-ce que je carafe? Qu'est-ce que je fais?
Tout à fait, oui, c'est possible de le carafer pour le laisser s'ouvrir quelques heures, oui.
La meilleure température pour le servir?
Moi, je suis technicien, donc j'aurais tendance à les servir pas trop froid. Je pense 14-15 degrés, c'est idéal.
Voilà, donc tous les conseils pour cette cuvée Prestige de Beaujolais Rouge. Je vous propose qu'on continue un peu notre déambulation à Eudoria, à la découverte de nouvelles choses. Ah, alors cette fois-ci, on a changé de couleur, Pierre Cinquin.
Oui, donc je vous amène à déguster la cuvée Saphir. C'est une cuvée de Crémant de Bourgogne qui était sortie il y a seulement deux mois, avant les fêtes. Cette cuvée de Crémant de Bourgogne, elle a une typicité. Elle est 100% Pinot, 100% Pinot Noir. Voilà, ça s'appelle la cuvée Saphir. Et elle a eu un élevage sur latte de 36 mois, donc 3 ans d'élevage sur latte. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la partie mise en bouteille des créments, entre le vin blanc, le sucre et les levures. Donc ensuite, cette cuvée est restée 3 ans en bouteille. Et elle a été dégorgée donc l'été dernier, donc l'été 2023, pour la mettre en vente pour les fêtes.
Un rappel, hein, c'est du coup la méthode champenoise, hein, ce que vous nous avez dit, qui permet d'obtenir cette effervescence. Déjà, alors, la bouteille en elle-même, elle est un peu surprenante. Ce n'est pas une forme de bouteille qu'on a l'habitude de voir pour les bouteilles de Crémant.
Tout à fait, oui. C'est une forme assez élégante, avec une teinte, on va dire, antique. Voilà, ça donne un packaging, moi, je trouve assez élégant, assez haut de gamme.
C'est vrai que c'est joli sur une table. Hein.
Oui, tout à fait.
Alors, passons. Alors, est-ce qu'avec un vin comme un Crémant, on va avoir le même processus de dégustation ou est-ce que c'est un peu différent?
Non, on va dire que c'est assez similaire. Autre info que je peux vous donner sur cette cuvée, c'est qu'au niveau du dégorgement, la liqueur d'expédition ne contenait pas de sucre. Donc, c'est ce qu'on appelle un extra brut. C'est-à-dire que c'est un vin effervescent qui n'a pas de sucre, comme certains autres vins effervescents de notre gamme de Crémant de Bourgogne. Voilà, donc l'intérêt de ne pas avoir de sucre, c'est de laisser vraiment s'exprimer le vin et qu'il ne soit pas recouvert par du sucre. Quoi.
Alors du coup, sans être sommelier, mais je me dis qu'un vin comme ça, extra brut, il peut tenir même peut-être face à des plats un peu fumés, à des poissons fumés, à des choses parce que ça va, un peu gras, ça va venir presque un peu dégraisser la bouche, entre guillemets.
Oui, oui, tout à fait. C'est un vin voilà, qui peut se mesurer à des champagnes et qui peut s'adapter simplement avec des verrines, des apéritifs, des choses comme ça, mais aussi tout au long du repas ou même sur le dessert. Quoi. C'est vraiment un vin de assez haut de gamme et qui est vraiment intéressant.
Et les vignes, alors, elles poussent sur quel territoire?
Les vignes des Doria donc, poussent sur un territoire assez vaste, on va dire... du côté Glaizé, Liergue, et ensuite on remonte sur le secteur des Thésée-Frontenat, et également, comme on vous a parlé avant, le secteur de l'Étra, Sainte-Paul, Ternan.
Et là, bah, spécifiquement, le raisin qui sert à faire ce crément saphir, il pousse sur quel type de sol?
Ça, je ne peux pas vous le dire, c'est le secret de fabrication.
Ah, là, on vient sur... on vient sur un point sensible, vous n'avez pas le droit de nous le dire. Secret de fabrication, on n'en saura pas plus. En tout cas... Est-ce qu'on peut dire faire la dégustation de ce crément et puis avoir un peu vos retours, votre avis, votre...
Ce qu'on peut juger également sur les créments de Bourgogne, donc c'est la finesse de la bulle. Donc je vous laisse voir par vous-même dans mon verre. On a une bulle très fine. Mmh. Voilà. Ensuite au nez, on ressent des arômes de fumée un petit peu, moi je trouve. Voilà. Et ensuite en bouche, on ressent des arômes de fruits frais. Un peu, moi je trouve, le noyau de cerise. Et une grande longueur en bouche, une grande finesse en bouche.
Effectivement, il tient longtemps en bouche. Et on sent bien le côté brut, mais c'est pas non plus... Alors je vais pas vous mentir, personne, je suis pas un grand amateur de vin Crémant, champagne, comme ça. Mais celui-ci, je le trouve particulièrement agréable.
Bah parfait, je suis content que ça vous plaise.
Donc c'est Saphir, il s'appelle.
Oui, tout à fait.
Blanc de noir, c'est amusant ça comme nom. Oui. C'est un peu mystérieux. Hein. C'est un peu un vin blanc avec des raisins noirs, c'est amusant. On continue notre balade au sein de la cave?
Oui, si vous voulez.
Vous nous emmenez dans quel coin du Beaujolais maintenant?
Donc toujours Doria, vous souhaitez déguster un vin rosé?
Ah bah moi je vous suis, hein. Je ne voudrais pas avoir des exigences et, et faire... Alors... Ah oui, alors là, on arrive vers le... C'est le comptoir, c'est ça, Doria? Ah oui, c'est classe, on est au comptoir comme ça. Enfin, le comptoir, ça fait pas troquer, hein, ça fait plus classe quand même.
Oui, tout à fait. Donc, pour terminer, je vais vous présenter un dernier vin, un Beaujolais rosé qu'on appelle la cuvée Sérénade.
D'accord. avec débouchage en direct. Ah, vous n'avez pas assez d'ongles apparemment pour enlever son couteau. Cuvée Sérénade. Donc, tiens, on est sur le même format de bouteille. Et donc, cette fois-ci, avec un vin rosé. C'est assez récent quand même dans le Beaujolais, le rosé. Hein.
Non, ça existe depuis longtemps, mais ça s'est pas mal développé depuis 5-10 ans, on va dire. Et donc, la cave d'Oria est, on va dire, assez leader sur la production de ces vins, les vins rosés, de par notre technique, de par notre expérience. Donc, la typicité de cette cuvée Sérénade, c'est qu'elle est sélectionnée et assemblée par un jury féminin. Donc, voilà, chaque année.
Ah, j'ai cru que c'était par des chanteurs, des chanteuses.
Non, non.
Ah, donc c'est le vin pour chanter la sérénade, c'est ça, après voilà.
Donc, les maîtres de chai de la production de Doria font une présélection de différentes cuvées. Et ensuite, on demande l'avis à un jury féminin, généralement composé de 8 à 10 femmes, tous les ans au mois de mars, pour ensuite sortir cette cuvée au mois d'avril-mai. L'autre typicité de cette cuvée, c'est que les vins rosés sont passés quelques mois en fût neuf. Donc c'est pour ça qu'on va ressentir au nez des arômes de noix de coco, des arômes un peu fumés, des arômes de vanille.
Effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la couleur? Parce que rosé, alors il y a autant de rosé qu'il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel, quoi. On est sur quel type de couleur là, de rosé?
Tout à fait. Nous, on essaie d'élaborer des rosés assez clairs. Avec des reflets bleutés, on va dire c'est ce qui est à la mode aujourd'hui.
Donc c'est quand on est maître de chai, il faut avoir aussi une grande maîtrise des couleurs alors.
Tout à fait, oui. Oui. Nos process de vinification s'adaptent par rapport à la mode, par rapport au changement climatique aussi. Et la couleur des rosés, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre.
Alors comme vous l'avez compris, là on est en dégustation, c'est pour ça que vous avez des petits silences, hein, mais c'est pas grave, on va pas parler en même temps qu'on boit.
Tout à fait. Est-ce que vous retrouvez les notes de noix de coco?
Oui, figurez-vous. C'est très doux. Alors je sais pas si on dit ça d'un vin, mais en tout cas, c'est
très sucre. Mais il n'y a pas de sucre dans ce vin, mais on sent beaucoup de rondeur dans le vin, beaucoup de longueur en bouche également. On sent des notes de fruits frais, des notes amyliques aussi. Voilà, j'espère que vous ressentez ça aussi.
Pas tout ce que vous avez dit, mais en partie. Mais en tout cas, oui, c'est un vin qui est doux, rond et qui est assez agréable. Alors, je rappelle, hein, tous ces vins-là, on les boit avec modération, bien sûr. Hein.
On recrache.
Et on recrache. C'est une dégustation, on est bien d'accord. En tout cas, merci Pierre Cinquin pour cette visite.
Merci à vous.
Alors, bien sûr, ici, quand on est à Doria, on peut presque faire un petit voyage dans le Beaujolais, parce qu'il y a tous les crus qui sont représentés, tous les villages emblématiques... Que l'on passe par Morgon, Saint-Amour, Chirouble, Fleury et j'en oublie bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour cette dégustation accompagnée. Et bien, Tiffaine, je pense qu'il va être le moment de faire une petite pause musicale et je vous rends la main.
Et merci encore, merci à vous Pierre Cinquin pour cette discussion autour du vin qui donne envie de faire marcher nos papilles gustatives. Mais avant cela, on va faire marcher et danser nos oreilles avec Natalia Doco et Aliena.
Baila, que el tiempo es tiempo y no retorna.
Más allá de lo que te imaginas.
Tal que tiene miedo puede ponerse a cantar. Tal que siente pena puede ponerla a bailar. Tal que lleva un peso. Puede dejarlo acá. Todo el que tiene una pena puede ponerla a bailar. La sagrada. Ya llegó. Piel de hada. Naranja en flor. Para encantar mi gente, ya llego para ponerle el son. Poquitito de agua de la fuente, para embriagarte el corazón. Ya llego esta lengua bien ardiente, prende fuego a tu tambor. Agua de rosa bebe de mi fuente, para embriagarte el corazón. Me pierdo,
y vuelvo a empezar. pedacito voy tejiendo, mi fuerte telar. Cada vez que yo me acuerdo, me pongo a cantar, monto al caballo mi cielo y vuelvo a empezar. Fuego a tu tambor, agua de rosa bebé de mi fuente, para enriquecerte el corazón.
Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, mais avant ça,
100.9.
Mais avant ça, pas de panique. Je suis avec Lauriane Bouvier, responsable qualité à la coopérative de Rien. Bonjour Lauriane Bouvier. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous déjà ?
Oh bah très bien.
Parfait. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer votre rôle dans la structure de Rien ?
Oui. Alors en fait, moi je suis à la fois responsable qualité, responsable aussi du suivi technique du vignoble et chargée de la mise en place du développement durable, donc de la partie RSE pour la cave coopérative.
D'accord. Pourquoi il y a besoin d'une personne qui prenne un rôle ?
Alors en fait, nous on s'est engagé depuis 10 ans dans tout ce qui était sécurité alimentaire. En fait, on a voulu montrer à nos clients que le vin qu'on produisait était un vin sûr, qui ne présentait pas de risque pour eux. Donc, on a voulu se certifier. Donc, on est certifié depuis 10 ans sur la norme ISO 22000 pour l'ensemble de nos sites. Et on a voulu aussi aller plus loin sur nos engagements. Donc, certifier nos coopérateurs sur des démarches environnementales. Donc, qui montrent, par exemple, que... on veut faire attention à la biodiversité, attention à l'utilisation de nos produits, à la qualité de nos sols, etc. Donc, on a beaucoup d'exploitations qui sont certifiées agriculture biologique et haute valeur environnementale.
D'accord.
Donc voilà, mon rôle, c'est de coordonner toutes ces parties-là, à la fois la partie sécurité à la cave et à la fois la partie certification sur le vignoble.
Vous parliez de la norme ISO 22000 ?
Oui,
qu'est-ce que c'est ?
Alors justement, c'est notre norme qui parle de sécurité alimentaire. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir, avec les équipes de la production, présenter et mettre en place des procédures pour garantir que le produit, donc le vin que vous allez boire, ne va pas avoir, je ne sais pas, une petite bête ou quoi que ce soit qui viendrait gâcher le plaisir en fait. Donc... voilà, mon rôle, c'est de pouvoir vous dire, vous pouvez boire le produit sans notre vin, sans aucun risque. Prenez du plaisir. Nous, on a fait tout ce qui est nécessaire avant pour vous garantir que vous allez passer un bon moment, quoi.
Et comment vous pouvez garantir, vous, quelle vérification vous faites ?
Alors, en fait, avec les équipes de la production, on a mis en place beaucoup de procédures qui vont de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Donc, on a beaucoup de, on va dire, des points critiques, des points, des étapes clés qui nous permettent de vérifier que, qu'il n'y ait rien. Donc, ça peut être, par exemple, faire attention à nos filtrations, dont Pierre vous parlait tout à l'heure. Faire attention lors de notre mise en bouteille ou, par exemple, pour nos coopérateurs, regarder les apports quand ils viennent à la cave avec leurs raisins et voir s'il y a quelque chose, par exemple, s'ils auraient laissé un seau, un sécateur ou d'autres choses comme ça qui peut arriver. Donc voilà, il y a différentes étapes où on fait attention et pour arriver jusqu'à une bouteille qui soit parfaite pour la présenter.
Merci. Et donc, vous faites toutes ces petites recherches. Vous faites quoi? Vous faites des échantillonnages pendant les vendanges? Comment ça se passe concrètement?
Alors, en fait, on met en place des procédures. Donc, c'est beaucoup de papier, beaucoup d'administratifs. Et on met en place des contrôles. Donc, ça va être, par exemple, si vous voulez, sur nos mises en bouteille, on va aller regarder la qualité de la filtration. On va aller regarder le rinçage des bouteilles. Et on a des étapes et des mesures précises à respecter pour vérifier que tout se passe bien, en fait.
Et vous parliez tout à l'heure, du coup, d'agriculture biologique. Oui. Comment on s'engage là-dedans? Comment on s'y prend?
Alors, sur l'agriculture biologique, nous, c'est vraiment la volonté du viticulteur. Donc, ça va être un engagement de sa part. Et nous, notre rôle, c'est que tout se passe bien pour lui quand il décide d'aller dans l'agriculture biologique. Donc, il va choisir une méthode de travail totalement différente dans sa vigne. Il va choisir des outils différents aussi. Et nous, le rôle, c'est de l'accompagner depuis le début de sa conversion, parce qu'il va avoir 3 ans de conversion, c'est-à-dire 3 ans où il passe d'une agriculture raisonnée à une agriculture biologique. Et pendant ces 3 années, le but, c'est qu'il soit toujours motivé, qu'il continue comme ses démarches et qu'après, il arrive à la cave avec son raisin en agriculture biologique au bout de 3 ans et qu'on puisse faire des cuvées derrière, nous, différentes avec son raisin.
Et ça va s'articuler comment? Vous allez l'aider à trouver d'autres produits pour protéger les vignes, par exemple?
On va l'orienter vers des personnes qui sont conseillés dessus. Nous, on ne fait pas de conseils par rapport aux produits qu'ils peuvent utiliser. Par contre, notre rôle, ça va être de les suivre au niveau, par exemple, de la réglementation qui peut évoluer. Ou alors d'être là si jamais il a une question et de l'orienter vers une autre source après en fonction de ses demandes. Donc, on a beaucoup un rôle où le viticulteur a une question, on essaye d'y répondre en le mettant en lien avec des professionnels sur ces sujets-là. Par exemple, donc, en dehors de l'agriculture biologique, on voudrait devenir vigneron engagé aussi. Donc ça, c'est toute la partie développement durable. Et là-dessus, on va aller faire des diagnostics d'exploitation. On va parler vraiment aux viticulteurs pour savoir ce dont ils ont besoin. Donc ça peut être, par exemple, une envie de mettre des bandes enherbées, des fleurs pour pouvoir attirer tel ou tel insecte qui va l'aider dans la vigne. Et donc ça, on va pouvoir aller l'aider et puis le mettre en relation avec des personnes qui vont leur donner les semences, etc. Pour pouvoir créer tout ça.
Et comment s'articule votre travail avec le maître de chai, avec Christian... Non, pas du tout, Pierre Cinquin. Comment vous travaillez avec lui?
Alors, avec Pierre, on va travailler sur tout ce qui va être, par exemple, sélection parcellaire, où on va aller ensemble pendant l'été visiter les parcelles qui vont servir à des cuvées vraiment spécifiques. Et on va travailler ensemble sur le planning des apports aussi. Donc, sur toute la partie réseau maturation dont Pierre vous a parlé tout à l'heure. Donc, on analyse les raisins pour savoir s'ils sont prêts en fonction des types de vins que l'on veut créer. Et quand on arrive à l'état optimal, on déclenche les vendanges. Donc, il y a tout un travail entre le viticulteur, la manière dont on apporte les vendanges et puis le travail de Pierre après à la cave.
D'accord. Donc, vous travaillez quand même bien main dans la main.
Oui, bien sûr, oui.
Et pourquoi c'est important?
En fait, c'est on va élaborer en fait toutes les procédures ensemble. Donc, c'est important que la cave soit prête quand les vignes arrivent à bon terme, parce que des raisins trop mûrs, c'est pareil, on ne va pas avoir la qualité de vendange ou la qualité après derrière nécessaire pour avoir des vins qui restent fruités, frais, comme vous avez pu déguster à l'instant. Donc c'est important d'avoir tout le monde qui travaille main dans la main, donc à la fois le viticulteur et la cave coopérative. Et donc nous, on est vraiment au milieu de tout ça, quoi.
Merci. Et j'ai cru comprendre que vous essayiez de lancer une démarche RSE, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Est-ce que vous pourriez m'en parler un
tout
peu
à
plus
fait. Alors, la démarche RSE, donc, pour nous, c'est vigneron engagé. Donc, on aimerait pouvoir être certifié à la fin de l'année 2024. Le but de la démarche, c'est de pouvoir montrer qu'on fait des efforts sur toute la partie environnementale, tout en écoutant ce qu'on appelle les parties prenantes, donc, c'est-à-dire nos clients, nos coopérateurs, les salariés, les riverains. Et le but, c'est que tout le monde travaille main dans la main pour faire en sorte que notre cave coopérative aille dans le bon sens, on va dire, de l'avenir, qu'elle soit présente encore très longtemps. Parce que beaucoup de familles comptent sur nous. Il y a énormément de personnes qui travaillent autour de la cave. Et on a un engagement fort parce que voilà, notre terroir, on l'aime, on veut qu'il reste, très longtemps. Et donc voilà, c'est le but de la RSE, c'est de pouvoir faire en sorte que notre terroir soit toujours là dans des dizaines et des dizaines d'années.
Je vous sens très touchée par rapport justement aux familles et à ce que tout le monde se sente bien. Vous avez toujours voulu bosser, travailler dans le monde viticole ou dans cette branche-là ?
Alors, pas du tout. Ça a été un gros coup de cœur pendant mes études. Parce que c'est un milieu qui change constamment, qui évolue tout le temps, qui se pose tout le temps des questions. Et moi, j'avais trouvé ça admirable. Au début, j'étais partie dans l'agroalimentaire, d'où le poste de responsable qualité. Et c'est vrai que le milieu de la vigne, il y a autant de personnes qui travaillent dans la vigne que de réflexions apportées. Donc c'est extrêmement riche et intéressant.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Lauriane Bouvier. Vraiment, merci à vous tous. Nous voilà à la fin de cette heure de découverte au sein de la coopérative Eudoria. Nous avons pu voir et entendre bien des choses sur le vignoble, la vinification et j'en passe. J'espère que comme moi, vous aurez pu en apprendre un peu plus et avec plaisir. Et que la prochaine fois que nous ouvrirons une bouteille, nous nous souviendrons du talent qu'il a fallu pour qu'on puisse la déguster. Encore un immense merci à Christian Clayette, Pierre Sequin et Lauriane Bouvier pour avoir répondu à nos questions. Merci à Maria pour la réalisation de cette émission et à Valentin pour l'organisation. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Vous pourrez retrouver cette émission sur radiocalade.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et en attendant, santé !